Rubrique divers. Il y a 70 ans, le 27 mai 1943, la création du Conseil national de la Résistance. L'allégeance du PCF à De Gaulle et à l'ordre bourgeois. Le 27 mai 1943, dans un Paris occupé par l'armée allemande, les délégués de tous les mouvements de résistance, ceux des partis politiques opposés au régime de Vichy, ainsi que ceux des syndicats, se réunissaient sous l'initiative de Jean Moulin. Il s'agissait, suivant le vœu de De Gaulle, dont Jean Moulin était le représentant en France occupé, de constituer un organisme officialisant le ralliement de l'ensemble des forces politiques au général réfugié à Londres. En particulier, cette réunion et la création du Conseil national de la Résistance qui en découla concrétisaient le ralliement du Parti communiste français à De Gaulle. Le PCF, seul parti réellement présent dans la population et particulièrement dans la classe ouvrière, organisateur de différents mouvements de résistance et formé de militants nombreux et dévoués, donnait ainsi à De Gaulle le crédit nécessaire auprès des alliés d'abord, de la population française ensuite, pour pouvoir prétendre incarner le nouveau pouvoir politique au moment de l'écroulement prévisible du régime de Vichy. Mais pour faire quoi? La peur des mouvements révolutionnaires. Au mois de mai 1943, la défaite de l'Allemagne se dessinait et, pour les états-majors et les hommes politiques bourgeois, il s'agissait de préparer la transition. Le souvenir de la fin de la Première Guerre mondiale était encore bien présent. En 1917, après 3 années de guerre, les mutineries au front, les grèves à l'arrière, la colère et la haine des fauteurs et profiteurs de guerre avaient conduit à la révolution en Russie, puis en Allemagne et en Hongrie, et dans nombre d'autres pays à de puissants mouvements contestant le pouvoir de la bourgeoisie. Ce souvenir venait d'ailleurs d'être ravivé en mars 1943 par les grèves ouvrières d'Italie. Il fallait empêcher que la fin de la guerre entraîne de nouveau de tels mouvements révolutionnaires. À la question générale du maintien de son ordre social, la bourgeoisie française ajoutait celle du maintien de son empire colonial, source d'une bonne partie de sa richesse. Passer du camp des vaincus, celui de l'Allemagne, au camp des vainqueurs, celui des États-Unis, et retrouver le statut de grande puissance, pouvait s'avérer délicat. Il allait falloir pour cela que l'État, son administration, son armée, soient capables d'assurer l'ordre après le retrait de l'armée allemande et la fin du régime de Vichy. Il allait aussi falloir continuer la guerre, faire repartir l'économie, intervenir immédiatement le cas échéant dans les colonies. Pour tout cela, De Gaulle avait besoin en particulier de l'allégeance du PCF, et de son engagement à ne pas mener, à la fin de la guerre, une politique révolutionnaire. Staline, à la tête de l'URSS, avait assuré aux alliés que les partis communistes sous sa coupe collaboreraient au rétablissement de l'ordre bourgeois. Ceux-ci avaient d'ailleurs déjà largement montré, dans les années 30, leur rupture totale avec une politique révolutionnaire. Le programme bourgeois du CNR. Évidemment, rien ne pouvait se faire sous le simple mot d'ordre du retour à l'ordre ancien, ne serait-ce que parce que la guerre et son cortège d'horreur étaient justement sortis de celui-ci. Il fallait particulièrement pour le PCF un programme, un discours permettant de prétendre que rien ne serait plus jamais comme avant. Le CNR allait donc établir un programme, adopté officiellement le 15 mars 1944, ne proposant rien moins que, citation, l'éviction des grandes féodalités économiques et financières et la direction de l'économie. Fin de citation. Cela devait se faire par la nationalisation des transports, de l'énergie, d'une partie des finances, l'existence d'une presse libérée des pressions financières, la création d'un système de sécurité sociale et de retraite, une extension des droits politiques des peuples coloniaux. Aux travailleurs qui avaient souffert du rationnement, on promettait une amélioration non chiffrée qui allait mettre des années à venir. Aux capitalistes, on annonçait, citation, l'établissement d'un impôt progressif sur les bénéfices de guerre et plus généralement sur les gains réalisés au détriment du peuple et de la nation pendant la période d'occupation. Fin de citation. Pour une classe composée dans sa totalité et par nature de profiteurs de guerre, ce n'était pas cher payé. Et son application. Les nationalisations allaient être effectives après la fin de la guerre sous le gouvernement de De Gaulle, auxquels participèrent les ministres PCF. Mais loin d'être une mesure sociale, elles étaient une nécessité pour le redémarrage de l'économie capitaliste et eurent lieu dans tous les pays, en Europe comme au Japon. Les entreprises furent d'ailleurs payées rubis sur l'ongle à leurs propriétaires. Pour tout droit politique, les peuples coloniaux eurent, dès le 8 mai 1945, les massacres de Sétif en Algérie, puis encore près de 20 ans de guerre coloniale. En France, les quelques mesures sociales, comme la mise en place de la sécurité sociale, ne coûtèrent en fait pas grand-chose à la bourgeoisie et ne furent que le prix à payer pour donner l'illusion d'un progrès social et permettre au PCF de brandir cet alibi. Dans ces conditions, l'union sacrée de tous les partis derrière De Gaulle, pour éviter des troubles révolutionnaires, assurer la continuité de l'État et conserver l'Empire, put fonctionner. Et, comme on peut le constater aujourd'hui au coup qu'elle porte aux travailleurs, les féodalités économiques et financières dirigent toujours l'économie et par là toute la société. Elles n'ont jamais été menacées, ni en 1945, ni après, et elles doivent d'avoir coulé ces jours heureux, après avoir mis la planète à feu et à sang dans deux guerres mondiales, au fait que la classe ouvrière n'a pas contesté leur pouvoir politique. Par l'intermédiaire des partis communistes et en particulier en France du PCF, le mouvement ouvrier a été domestiqué et mis au service de la bourgeoisie et de son État. Les prétendues conquêtes de la libération ne furent que le maigre pourboire versé par la bourgeoisie aux appareils politiques et syndicaux encadrant les travailleurs sous la forme de places dans ces institutions. C'est ce reniement de toutes les traditions révolutionnaires, cet asservissement volontaire des partis et syndicats ouvriers qui ont été présentés pendant 70 ans comme un titre de gloire par les dirigeants du PCF et d'une partie de la gauche. Ceux-ci continuent de célébrer le Conseil national de la Résistance et son programme comme l'exemple même d'une politique sociale. Mais s'ils démontrent quelque chose, c'est surtout leur belle constance dans la tromperie à l'égard des travailleurs. Paul Gallois.